When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Louis.
La marque est assez dark. On est sur une base de dépression nerveuse quand même assez constante au niveau du choix des livres. On n'est pas sur Jojo Lapin. Alors que j'aime bien déconner, du coup. C'est dommage, la marque n'est pas du tout basée sur l'humour ou ce genre de choses. Je ne dis pas que je suis drôle, hein, mais en tout cas, on aime bien déconner.
Et oui, Agathe, notre invité du jour aime bien déconner. Et c'est vrai que c'est rare dans la mode. Il s'appelle Louis-Gabriel Mouchy.
Et sa marque, c'est LGN. Il a d'ailleurs reçu le Grand Prix de Landam, qui sont un peu les Césars de la mode.
C'est tout à fait ça, Agathe. Louis-Gabriel Mouchy, il a une trentaine d'années. Il est diplômé de la grande école de mode belge, la Cambre. Et il défile depuis 2019 pendant la Fashion Week parisienne, avec sa marque de mode masculine LGN. Donc, une marque éco-responsable et sexy. D'ailleurs, ses best-sellers, c'est un débardeur ou un slip légèrement échancré. Avec Louis-Gabriel Mouchy, on a parlé de ses premières émotions mode, de son rapport obsessionnel à l'image, de sa passion pour la littérature et de la déconstruction de la masculinité. Louis-Gabriel Mouchy, celui qui rhabillait les hommes, ça commence. Je suis Sébastien Thème.
Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain.
Est-ce que déjà, tu te souviens de ta première émotion mode?
Oui, je m'en souviens très très bien. Je marchais dans la rue, j'étais tout petit avec ma mère, on était vers la place des Victoires et je voyais des gens qui sortaient de la boutique Yoji Yamamoto. Et ça a été un très grand choc pour moi parce que, je sais pas, je pensais pas que ça existait dans la vraie vie, des gens qui pouvaient s'habiller comme ça. C'était très très impressionnant, c'était un grand choc pour moi. Et je suis une vieille maintenant, donc il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Internet. J'ai découvert la mode dans les magazines ou en regardant le journal télé. Je me souviens des reports de Fashion Week du M6 Minute, je crois que ça s'appelait comme ça. Ouais. Et surtout dans la rue, en fait, où je voyais les gens.
Donc cette première émotion mode, c'est des corbeaux qui sortent dans la rue, ouais. En plein jour. Et à quel moment tu t'es dit que t'allais en faire ton métier ?
C'est très cliché, mais j'ai bizarrement commencé à dessiner des vêtements très tôt. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ma mère, on va dire, m'a mis au dessin parce que j'étais relativement hyperactif, donc très chiant à gérer. Et du coup, elle cherchait désespérément des moyens de me calmer et que je sois tranquille dans ma chambre. Et le dessin en faisait partie. J'ai toujours dessiné des gens. Je redessinais du coup ce que je voyais dans les magazines et du coup je disais tiens, il faut trop les envoyer aux maisons et tout. Donc je crois qu'on a gardé dans la famille les réponses de Dior ou de Lacroix. J'étais obsédé par Lacroix du coup parce que je faisais des espèces de vieux collages tout. Et c'est resté tout le temps. En fait, même après, je voulais faire de l'animation pendant très longtemps et donc je dessinais des mangas. Parce que bon, Yoji a entraîné une légère obsession du Japon très très tôt et j'ai toujours dessiné des gens, des silhouettes. Du coup, je faisais des histoires autour des silhouettes et tout. C'est très bizarre et je n'ai jamais su pourquoi en fait. Mais voilà.
Mais au fond, ça aurait pu ne pas être la mode. Alors, c'est presque ça ce que tu nous dis.
Bah, c'était assez évident parce que j'ai un parcours scolaire, dirons-nous, un peu particulier, vu que j'ai fait 2 ans de médecine, j'ai une licence en droit, puis après j'ai commencé une école de mode. J'avais très peur de ce milieu. J'étais pas du tout issu de cet univers-là. Donc, du coup, pour moi, ça me terrifie un petit peu dans le sens où, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait? Et j'ai aucun contact, je connais personne. Et au bout d'un moment, j'avais un peu besoin de sens, en fait, dans ce que je faisais. Et puis tout le monde me disait ça depuis tout petit, mais toi, tu feras de la mode, toi, tu feras de la mode et tout. Et j'étais comme ça, comme je déteste faire ce qu'on me dit de faire. Du coup, j'ai un sale caractère. J'ai mis très longtemps, en fait, à accepter le fait que ça, je pouvais potentiellement vivre. Et parce que je savais que c'était un milieu où il y a très, beaucoup d'appelés et très, très peu d'élus. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, allez, on y va, quoi.
C'est intéressant ce que tu dis, finalement, presque d'être allé pendant longtemps contre ton destin et finalement d'accepter d'aller vers ton destin. C'est presque ça, en fait.
Destin, je sais pas, mais en tout cas contre sa passion, du coup. Et il y a très, très peu de gens qui sont, à l'heure actuelle, je pense, capables de vivre de leur passion. Et ça, je suis extrêmement chanceux.
Mais intimement, psychiquement, ça fait quoi de pas accepter d'aller vers sa passion?
Bah, ça veut dire que je m'étais toujours dit que je me créerais du temps pour faire ça à côté, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Bah, tu peux très bien vivre comme ça aussi, hein. Donc, le travail n'est pas une fin en soi. T'es pas obligé d'être possédé de joie par ce que tu fais, quoi. Donc, il y a quand même peu de métiers qui offrent un accomplissement personnel extrêmement épanouissant. Donc, voilà, nous, on a beaucoup de chance en création, en termes général, hein. Moi, c'est des vêtements, mais ça peut être plein d'autres choses. Mais après, c'est mon spectre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réalisent autrement.
Et la mode, alors, elle permet quoi comme épanouissement complet?
Ah bah, en fait, on crée tout le temps. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, parce que je me lasse très, très vite de ce qu'on fait. Et je suis un petit peu obsessionnel, donc j'aime bien refaire. Et donc, c'est très cyclique, c'est-à-dire qu'on fait toujours la même chose à la même période de l'année. Et ça, je trouve ça très rassurant, déjà. Il y a un vrai cadre aussi, c'est-à-dire qu'on doit réaliser des produits. Donc, toutes les idées, en fait, c'est comment tu passes d'une idée, d'une sensation à un t-shirt, en gros. Et ça, je trouve que c'est un super challenge, en fait, parce que c'est très craft. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que... Enfin, moi, je sais patronner, je sais monter les pièces, je sais faire des motifs, je sais faire des chaussures. Enfin, c'est très manuel comme métier. Et donc, du coup, c'est très satisfaisant parce que déjà, même en études, tu vois tes progrès. En fait, c'est-à-dire que tu vois que les vêtements sont de mieux en mieux faits, que tu arrives de mieux en mieux, à réaliser en 3D ce que tu as dans ta tête ou ce que tu fais en dessin. Donc ça, c'est très satisfaisant. Et du coup, j'aime bien cette idée de cycle, ouais, ce que je disais. Ça, je trouve ça très agréable de dire que tu peux retravailler toute ta vie sur la chemise blanche, sur la veste tuxedo. Enfin, tu as un peu des archétypes comme ça de vêtements que tu peux toujours améliorer, ou tes goûts changent aussi. Donc tu dis, bah tiens, on va plus la travailler comme ça et tout. Et ça, je trouve ça très, très chouette. Moi, ça me correspond bien, en tout cas.
Il y a quelque chose de chez toi aussi qui est aussi de l'ordre de l'image. C'est-à-dire, je pense peut-être les gens voient qui t'es par une pièce, si on peut peut-être la décrire d'eux-mêmes. C'est un débardeur échancré et un slip lui-même échancré. Est-ce que tu peux décrire ces deux pièces et nous dire comment elles sont nées?
Oui. Alors, en fait, on n'a pas de logo à proprement parler dans la marque. Notre logo, c'est ce qu'on appelle, voilà, le slit. Donc, du coup, cette ouverture. On n'a jamais su la nommer, d'ailleurs. Asymétrique, qu'on a mis d'abord sur des t-shirts, des débardeurs sur des cols, et qu'après est venu sur des bas, donc plutôt les slips, les pantalons. Donc, en fait, notre logo, c'est montrer de la peau. Déjà, c'est quelque chose qui, moi, me parlait parce que j'aime pas trop avoir des vêtements avec des logos dessus. Et du coup, ça montrait un nouveau rapport au corps. Donc ça, pareil, c'est vraiment en lien avec, enfin, je pense, toute l'esthétique japonaise, aussi le rapport qu'ils ont aux vêtements, qui est complètement différent de nous en Europe, où pour eux, vraiment, la sensualité, c'est l'espace entre le corps et le tissu. Du coup, c'est le fait de deviner une clavicule ou un poignet sous une grosse manche de kimono. Voilà, c'est là où se réside la sensualité. C'est pas de montrer un téton, en fait. Et ce qui peut être, c'est une autre version, hein, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours super intéressé. Et voilà, de montrer des zones comme ça du corps, surtout masculin, qui sont pas censés être érogènes et qui deviennent érogènes du coup ou sensuels parce qu'on les montre. Du coup, je trouvais que c'était intéressant. Donc, c'est un code qui était là dès le premier proto de la première saison. Et du coup, après, bah, c'est très logique comment on fait des plans de collection. Donc, on l'avait en haut, bah, du coup, on le met en bas. Et du coup, à la base, c'est tous les maillots de bain de pièces années 30, du coup, qu'il y avait à l'homme et qu'on a décidé de couper en deux. Donc, on avait le débardeur avec le trou qui était déjà là. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on va le mettre sur le slip. Et voilà, c'est parti comme ça.
Et le succès après ça, un succès qui a plu, enfin, c'est des pièces qui ont plu, à ton avis, pourquoi elles plaisent aux gens et pourquoi, tu parlais d'Instagram d'ailleurs tout à l'heure, ça crée aussi ça, ça crée une image qui peut, qui se démultiplie sur les réseaux sociaux. Est-ce que la mode aussi, c'est penser et, comme tu dis, quelque chose d'intime, intérieur, et aussi penser l'image et la démultiplication de cette image?
Je pense qu'il y a plein de facteurs qui font qu'une pièce marche. Il faut avoir de la chance de lancer le bon produit au bon moment. Moi, je pense en dernier à l'image. En fait, très clairement, on est vraiment obsédé par le produit ici et le fait qu'il soit apporté par le maximum de gens. Et je pense que ça se fait un peu comme ça au bouche à oreille, en fait. Et le fait qu'on ait travaillé sur de l'underwear, moi, j'avais jamais fait ça avant, en fait. J'ai toujours fait que du tailleur. Du coup, pour moi, c'était pas du tout un produit sur lequel je me disais, oh, bah, tiens, on va faire notre bread and butter là-dessus dans la marque. Et en fait, c'est une pièce qui m'a obligé à me poser beaucoup de questions, bizarrement, sur, en fait, si moi, en tant que garçon, on va dire, si j'ai envie d'acheter des sous-vêtements, en fait, je me suis jamais posé la question, soit c'est des marques mass market ou du Calvin Klein, enfin, voilà, des choses très pratiques, dirons-nous. Ou alors, si j'avais envie d'autres choses, tout de suite, on était très, très niche, dirons-nous. Et j'avais pas forcément envie de ça.
Très niche, ça veut dire presque aller chercher du côté de l'objet, du vêtement sexuel, quoi, voilà, ou sexualisé.
Oui, c'était tout de suite très sexualisé. Et du coup, j'avais pas forcément envie de ça. Parce que déjà, moi, je suis allergique à tout, donc c'était des trucs en polyester dégueu, je sais pas, j'étais pas bien dedans, je me sentais pas à l'aise.
Pas de cuir.
Non, pas de cuir en sous-vêtements, non, s'il vous plaît. On travaille. Mais il y a des gens qui veulent travailler avec, hein, ils sont très bien. Et, mais oui, en fait, il y avait pas d'offre. Je me suis rendu compte, plus on travaillait là-dessus, plus je me suis dit, ah bah tiens, c'est marrant parce que tout le monde disait, mais c'est hyper osé d'avoir une ouverture, c'est comme ça, enfin, c'est pas très osé non plus, quoi, enfin, ça va aller. Et après, le moment du shooting, par exemple, c'était un grand moment. Parce que du coup, quand tu veux shooter un slip, tu n'as rien sur l'image à part un mec en slip, en fait. Donc tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on va raconter? Et ça peut paraître très drôle comme ça, mais c'est un énorme sujet parce que tu te dis, c'est quoi le type de corps que tu veux montrer? Quel est le ton, en fait, que tu vas avoir? Est-ce que tu vas être hyper commercial? Est-ce que tu vas être plus niche? Qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Parce que tu peux pas mentir, en fait, sur l'image, et c'est très perturbant par rapport à des lookbooks, par rapport à des shows. C'était un vrai sujet, et du coup, j'ai passé énormément de temps, je me suis un peu forcé à passer du temps sur un shoot, ce que j'aime pas trop faire normalement, et le ton était cool, et ça a tout de suite marché, vraiment.
Faire de la mode masculine jusqu'à pas très longtemps, c'était un peu boring, le vestiaire masculin, il a changé, bien sûr. Chez toi, il y a aussi quelque chose, même si tu dis que t'es plutôt simple et que t'as des goûts simples et tout, il y a quand même dans l'image quelque chose d'un peu kinky, un peu sexy.
Bien sûr.
L'homme que tu nous montres, c'est quel type d'homme?
Déjà, nous, on a un vrai travail sur tout ce qui est déconstruction de la masculinité aujourd'hui. Et donc, moi, en fait, au début, ça m'amusait de me dire pourquoi on peut pas faire ça. En fait, pourquoi on peut pas mettre de la transparence? Pourquoi on peut pas montrer de la peau? Et en fait, plus on me disait de pas le faire, plus je le faisais. Et il y a encore des pièces qui sont très statement, alors qu'en soi, c'est rien. Par exemple, de faire des bodys à l'homme, c'est encore très choquant, alors que les femmes le portent depuis je sais pas combien de dizaines d'années. C'est pas un sujet, la transparence non plus. Donc, en fait, plus on avançait sur ces sujets-là, plus c'était intéressant, en fait, de voir c'est quoi les limites de l'acceptable, de voir comment le corps de la femme a été sexualisé par rapport au corps de l'homme. Et au début, on parlait beaucoup de sexualité parce que je me rendais compte que ça choquait énormément juste de mettre un mec en slip sur un runway, mais qu'il soit poilu, qu'il soit pas, en fait, tous les morphotypes qu'on a l'habitude de voir depuis très longtemps. Déjà, rien que ça provoquait un débat. Donc, je suis comme ça, c'est intéressant, en fait, du coup. Pareil, de faire des t-shirts imprimés sueur aussi, c'est un t-shirt gris avec une impression digitale, ça fait une espèce de buzz épouvantable. Moi, je trouve ça hyper drôle parce que du coup, c'est-à-dire que ça provoque des débats, en fait, et ça c'est intéressant parce que nous la marque est basée sur la littérature, donc c'est une conversation. Chaque collection est un livre. Pour moi, il y a un vrai parallèle entre mode et littérature parce que au-delà du fait que j'ai créé la marque aussi pour comprendre pourquoi je crée comme ça, parce que j'ai toujours créé à partir de livres. Tu peux lire un livre à plusieurs périodes de ta vie, l'interpréter complètement différemment, comme un t-shirt, et plusieurs personnes peuvent lire le même livre et l'interpréter de manière complètement différente, bah, comme un vêtement, en fait. Et t'as cette notion de confort, d'intimité, enfin, qui pour moi est très liée à la littérature, et ça, c'est quelque chose que j'ai conscientisé il y a pas si longtemps que ça par rapport à la date de la création de la marque.
Est-ce qu'il y a aussi dans l'homme que tu présentes quelque chose de l'ordre du désir pour toi ? C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi des garçons qui te plaisent ? Est-ce que...
Ça, c'est assez marrant parce que déjà, la marque a mon nom. Donc ça, c'était logique de le faire au début. Parce que je sais pas, j'avais pas d'idée pour un nom de marque. J'avais déjà commencé des collabs avant avec mon nom, donc du coup, c'était plus facile. Mais ça s'est complètement détaché de moi. Ça, c'est très drôle, du coup, parce que plus la boîte grossit, plus il y a des gens, et plus tu dis, ah, mais ça, c'est LGN, ça, c'est pas LGN. En fait, on sait plus moi, déjà. Donc ça, je trouve ça bien parce que déjà, t'as plus de recul aussi. Le casting est un moment qui est très important pour moi avec, je travaille énormément avec mon directeur de casting très, très en amont, pour chaque défilé. J'ai un rapport très perso à tous les mannequins dans le sens où il faut que je les apprécie. Mais c'est très bizarre d'expliquer comment tu apprécies un mannequin. On a beaucoup de femmes qui sont naturellement clientes de la marque depuis le début. Toutes les filles de l'équipe ont des pièces, mes amis aussi. Donc c'est pour ça qu'on fait du XS aussi pour les pièces. Donc il y a pas mal de pièces qu'on peut dire unisex. J'aime pas du tout ce mot, mais en tout cas qui sont... possible de mettre pour les filles, du coup, genre les pantalons jogging, les chemises, les manteaux, généralement, il faut raccourcir les manches.
Pourquoi tu dis que tu n'aimes pas le mot unisexe ?
Parce que je pense que, enfin, moi, je pense en patronage, en fait, les corps sont différents. Et je ne dis pas homme ou femme, c'est-à-dire que les corps, en général, sont différents et que tu parles d'inclusivité ou de genre, en fait, les corps sont vraiment différents, en fait. C'est-à-dire que c'est pas, j'arrive pas à trouver le mot. Les femmes ont forcément des hauteurs de buste différentes, elles ont des épaules différentes, elles ont des hanches, en fait. Il y a des mecs qui peuvent avoir des hanches aussi, mais du coup, c'est pas pareil. Mmh. Et du coup, techniquement, c'est très compliqué de vendre quelque chose comme allant à tout le monde, alors que c'est morphologiquement pas vrai. Du coup, c'est plus par rapport à ça. En fait, que je dis que moi, l'unisexe, c'est parce que les gens décident que c'est unisexe et que les filles, elles n'ont pas attendu quoi. Enfin, si, elles ont attendu longtemps. Mais pour mettre des pantalons, par exemple, c'est un choix, du coup, que la fille vient prendre dans le vestiaire masculin ou inversement. Du coup, on peut pas dire que le produit est fait pour ça de base. Du coup, et ça, je suis très... je viens du tailoring, donc du coup, on passe quand même des semaines pour 5 mm sur un revers. Enfin, c'est très précis. Et pour que les gens soient bien dedans et que les gens soient bien dans leurs vêtements, il faut que ça soit adapté. Voilà. Donc, unisex, hors catégorie produit, hors type sportswear. Et encore, j'ai un peu du mal.
J'avais une dernière question. Est-ce que tu fais une différence entre Louis-Gabriel Nouchi et LGN ?
Oui. oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il y a une vraie distanciation qui se fait, en fait, au bout d'un certain temps entre la marque et moi, du coup. Et ça, je trouve ça très cool, du coup. Donc, tu veux savoir la différence entre LGN et Louis-Gabriel ? Ben, je sais pas, moi. La marque est assez dark. On est sur une base de dépression nerveuse quand même assez constante au niveau du choix des livres. Hein. On n'est pas sur Jojo Lapin. Alors que j'aime bien déconner, du coup. C'est dommage, la marque n'est pas du tout basée sur l'humour ou ce genre de choses. Je dis pas que je suis drôle, hein, mais en tout cas, on aime bien déconner. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Non, sinon après, ça me ressemble pas mal dans le côté obsessionnel, le côté, on va être de plus en plus radical, quoi d'autre aussi, l'obsession du produit, en fait, du fait que ça soit vraiment mieux en mieux fait, qu'on se challenge vraiment, vraiment de ouf là-dessus.
Mais tu dis obsessionnel, mais obsessionnel, ça veut dire quoi ? À part l'obsession du produit, mais si obsessionnel tu es, de quelle manière ?
Mireille Dumas.
T'es obsédé par Mireille Dumas ?
Non, mais ça fait très Mireille Dumas, là.
Sois gentil, s'il te plaît.
J'aime bien travailler tout le temps sur les mêmes trucs, en fait. Donc, c'est pour ça, le côté obsession, c'est-à-dire que ça revient et que je... Enfin, c'est pour ça que ça me plaît bien, ce métier, c'est que tu vas jamais craquer la veste parfaite, le pantalon parfait, la silhouette parfaite. Donc, tu refais. Moi, j'aime bien ce côté... tu refais tout le temps, en fait. C'est quelque chose... parce que je me lasse très, très vite. Je suis très impatient aussi, donc...
C'est ça, c'est ce que tu dis, parce qu'en fait, finalement, c'est l'inverse. Tu dis que t'es impatient, tu dis que t'aimes le changement, et pourtant, tu te répètes, tu te répètes, tu te répètes, donc finalement...
T'es jamais content, je suis un éternel insatisfait, donc...
À la fois, t'attends vraiment que tout change, et en même temps, t'es prêt à prendre tout ton temps pour rendre quelque chose parfait.
Oui, mais c'est en travaillant, donc du coup, c'est pas de la patience. Tu vois, si j'étais patient, je mettrais 5 ans pour sortir un t-shirt, tu vois. Mais non, c'est vraiment... je me dis toujours, c'est quand tu fais que tu vois. Tu vois, je suis pas... On a beau être très, très mental. Ici, c'est, moi, j'aime bien faire des trucs. Et après, on dit, ah bah tiens, c'est moche. Ah bah tiens, c'est cool, on va continuer. Mais c'est vraiment en faisant les trucs.
Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Louis Média présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. Mon invité était le créateur de mode Louis-Gabriel Mouchy. Cet épisode a été réalisé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Michael Lyon. À très bientôt dans Pépite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.